E-Teachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Et Seb.
Bonsoir à tous, e-teachers 102 ce soir, le premier numéro d'octobre. Voilà, salut Seb.
Salut Jeff.
Voilà, ce soir on est tous les deux. On a Guillaume et notre Sébastien américain qui ne sont pas là ce soir. On a une émission en tête-à-tête, tranquille, c'est la première de l'année en tout cas en tête-à-tête. Voilà, après cette belle émission 101 avec plein d'invités. Voilà, qui a eu pas mal de soucis techniques, qu'on essaye encore ce soir des nouveautés. Voilà, on s'en met encore un peu plus en technique, puisqu'on est pour la première fois en live sur Twitch. Hein, on fait comme les jeunes gamers. Hein. On est sur Twitch, on essaye ça. En tout cas, vous pouvez nous faire un retour, en tout cas pour ceux qui sont en live ce soir et ceux qui nous regarderont en replay, par exemple, sur Twitch. Sinon, ça ne changera rien du tout pour les autres. Hein. Ce sera en audio, comme d'habitude, dans leur podcast classique. Voilà, une émission riche ce soir en tout cas. Je commence par le sommaire, Seb, ouais. Je
sens vas-y, y a pas de souci. Juste un petit retour sur l'émission d'avant, ou pas?
Vas-y.
C'est alors c'est sûr que ça a été une émission un peu déboire, mais ça a été un grand plaisir de croiser Charlotte et Gwenolé pendant du coup ces deux fois, hein, ces deux émissions. Vous n'en avez eu qu'une, moi j'ai eu la joie d'en avoir deux. Et ça a été un vrai moment de partage. Ça n'a pas été ils venaient pas faire leur pub. C'était un vrai plaisir. Ils se sont un petit peu lâchés. Et ça a été un beau moment, je trouve. Encore merci à eux et merci Edumo.
Ouais, chapeau à toi aussi. Hein. Moi, je l'ai écouté. C'est vrai que avec tous les aléas, tu as bien géré les deux émissions, en tout cas.
Allez, on essaye.
On est parti. Et puis je réitère, hein, s'il y a des gens qui veulent profiter un peu des teachers pour parler un petit peu d'éducation numérique, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Allez, au sommaire ce soir, en actu, Seb va nous faire un petit retour sur ses vacances, en gros. En Ariège, donc vous avez reconnu, c'était pour Ludovia, il a participé tout seul, lui en tout cas à Ludovia cette année. Dans les outils, on aura quand même quelques trucs sympas en tout cas sur l'écriture, plutôt sur le texte en tout cas, avec quelques outils. On a deux trucs et astuces en tout cas tous les deux soirs. J'ai une petite un petit article que je vais essayer de vous relater sur tout ce qui est retour en tout cas des enseignants par rapport au confinement, une enquête en tout cas qui a été réalisée. Et on finira par ce que l'on fait en ce moment et pour parler d'autres choses comme d'habitude. Voilà, une émission en tout cas riche en perspectives. On est parti ?
On est parti.
Bon, c'est à toi en tout cas Seb, c'est sur l'actualité. Donc j'ai parlé de Ludovia 17, tu as été le fidèle e-teachers à Ludovia, donc il nous fallait quand même faire un petit retour.
Alors on va s'en charger, voilà, un mois ça paraît déjà bien loin. J'étais sur les terres d'Ariège tranquillement pour essayer de participer à ce Ludovia 17 auquel je dois avouer que tout l'été je n'ai pas trop cru, hein. Je me suis attendu tout l'été à ce que ce soit annulé et puis en définitive j'ai bien fait de prendre mes billets et mes réservations pour un moment qui a été...
Oui. Moi j'allais faire peut-être un retour pour ceux qui... connaîtrait pas encore Ludovia.
Hein, alors,
on sait jamais. Hein, c'est ils appellent ça l'université un peu d'été, c'est ça. Hein, donc de,
tout à fait.
C'est ça. C'est une rencontre en tout cas de toute la sphère éducation. C'est en Ariège. C'est dans une ambiance plutôt habituellement très cool. D'accord. Hein, y a un dress code qui n'est pas de costard cravate, souvent on dit. Hein, voilà. Donc on peut en tout cas rencontrer plein de strates de l'éducation autour d'un verre ou autre en plus le soir, donc ça c'est assez sympa et puis pas mal de choses en tout cas. Et dans cette première question que j'avais de te poser avant vraiment de rentrer dans le dur, c'est l'ambiance justement après avec ce Covid justement.
Alors l'ambiance, les masques étaient de la fête, forcément, vous en doutez. Les distributeurs de gel hydroalcoolique techno étaient avec affichage télé étaient là aussi. Bon, voilà. Après, l'organisation s'était recentrée. Je crois qu'ils ont compté dans les 700 participants. Alors il y avait les 7 participants en présence là-bas, puis les participants en distance, puisqu'ils avaient mis à profit l'expérience qu'ils avaient eue sur les Ludoviales pendant le confinement. Tout ça pour essayer d'avoir un Ludovia au plus proche de ce que c'est-à-dire du partage entre enseignants, entre personnes qui essayent, et une, comme tu l'as dit, une bonne ambiance, loin du costard-cravate, loin des présentations un peu guindées. Bon, pour moi, le pari est assez admirablement réussi. Là où il y a pas mal... on le voit cette année, pas mal d'événements qui sont annulés. Moi, par exemple, je vois que le salon de la photo cette année passe à la trappe. Eux, ils ont réussi à le maintenir. J'ai envie de dire tant mieux, parce que les gens que j'ai croisés là-bas me disaient quand même qu'ils en avaient un peu besoin. Ce petit moment où on se retrouve. Alors certes, on a laissé tomber les câlins, mais c'est pas grave.
Ouais.
Voilà. Mais sinon, il y a eu du partage, il y a eu des gens super intéressants. Je vais vous faire un petit peu. Alors, allez. C'est un truc très perso. Hein, c'est mon programme, le programme que j'ai suivi. Donc, forcément, je suis passé à côté d'un paquet de choses. Ludovia, c'est ça. On y va pour voir un paquet de choses et on en loupe la moitié, forcément, puisqu'elles sont en même temps que d'autres. C'est un choix. Alors. Je peux y aller ou tu veux
vas-y. Quelque chose. Non, voilà. Tout à fait. Et puis voilà. Des fois, j'en rajouterais que on se fait souvent son programme avant d'y aller, et puis finalement, on déroge beaucoup à son programme. Hein.
Tout à fait. Par exemple, un truc tout bête, il y a le stand Pop Lab. Ça fait, je crois, la deuxième ou troisième année qu'il est là. Ce stand, autant je n'y suis pas du tout passé, autant j'ai discuté avec un de ses responsables au détour du. Une boisson tranquillement, parce qu'on était à la même table, sans rendez-vous principal, discussion agréable sur un tout autre sujet que sa société, mais voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai bien pu voir? Alors, j'ai été voir Monsieur Bourdel-Chapuzot, Romain de son prénom, qui nous faisait une présentation de comment il avait adapté sa classe inversée au confinement, parce que c'était un peu le thème, un peu de thème là, il y avait les injonctions, le thème c'était les injonctions... face aux injonctions numériques, hein, lui, il faisait cet atelier-là. Si vous avez déjà entendu Romain, c'était un atelier très intéressant, parce que ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il nous présente ce qu'il a fait, ce qui a marché, mais surtout ce qui a complètement foiré, hein, ce qui n'a pas marché. C'est quelqu'un qui est présent ce qui ne marche pas, parfois. Pas que, mais voilà. Donc, super intéressant. J'ai été voir Caroline Journaud qui présentait comment ils avaient fait une histoire dont vous êtes le héros à partir d'un twine. Je ne connaissais pas. C'est un petit logiciel pour faire les histoires dont vous êtes le héros. Vous savez, ces histoires à embranchement littéraire. Et elle, c'était sur le thème d'un procès dans l'Antiquité. Super intéressant. Belle réalisation finale, etc. Belle présentation. J'ai bien aimé. Du coup, ça m'a motivé. On a eu, j'ai eu la salle de classe virtuelle de Nicolas Gaube, où comment il avait fait à partir d'un Géniali, il avait mis en ligne sa classe pour pendant le confinement, pour que ça apparaisse, pour avoir une présence auprès des élèves. Et il le dit, alors il a rien inventé, mais bon, il l'a super bien présenté quand même. Bravo à lui. Avec des tas de petites astuces, il a vraiment détaillé les choses. C'était un vrai plaisir. Qu'est-ce que j'avais eu ? J'ai eu Anaïs Soussan. On part totalement sur autre chose. Alors, vous voyez, Nicolas Gaube, c'était au collège, je crois, au lycée. Anaïs Soussan, elle était prof en IME et elle nous détaillait, elle a un projet avec des albums, mais comment elle a fait pour s'adapter au confinement ? Et surtout, qu'est-ce qu'elle en a retiré comme expérience ? C'est qu'est-ce qu'elle va faire maintenant de différent que le confinement lui a imposé, mais qu'elle a bien aimé ? Et je me suis posé la même question après avoir vu son atelier. Qu'est-ce que moi, le confinement m'a imposé et que je vais garder. Je me suis aperçu que oui, il y avait du positif dans ce moment assez difficile. Alors après, j'ai été voir, ne criez pas, j'ai été voir un atelier sur G Suite dans les établissements. J'ai rencontré, on en avait parlé, de Short Edition. Ils étaient présents là un peu furtivement, donc ils ont fait un petit atelier pour présenter ce qu'ils faisaient. Je rappelle, ils ont un site où il y a des histoires en libre accès avec certaines lues directement sur la page, et ils font aussi la distribution de boîtes de lecture, c'est-à-dire des boîtes qui impriment à la volée les textes justement qui sont disponibles, voire d'autres textes qui sont composés. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, après, pour terminer un peu tout ça, parce que ben, mine de rien, ça passait vite, et puis entre temps, voilà, il y avait la conférence PIX, mais bon, ça, j'imagine que tu le sais, puisque je sais que tu avais une envoyée sur place qui a dû fidèlement te faire une retranscription de tout ce qui était dit. Que vous dire, bah, apparemment c'est la grande année de la certification au niveau du lycée. Donc j'ai suivi ça. Alors j'ai suivi ça un peu par acquis de conscience, pour transmettre la parole auprès des quelques collègues de secondaire que je peux connaître. Maintenant, étant donné que ben, pour le primaire il y a toujours rien, forcément j'avais pas un intérêt fou. Maintenant c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils proposent. Du coup ça m'a donné envie. Je suis parti pour faire mes ateliers PIX aussi à titre personnel. Donc tout ça c'est quoi? Après à côté de ça bien sûr j'ai été voir quelques stands, mais c'était plus du ponctuel, de l'occasionnel. J'en ai rencontré quelques-uns. J'ai revu Sébastien Franc avec qui on a parlé de Patchwork au Ludo Live de l'année dernière. J'ai manqué Grégory Michnik, qui avait un super atelier de comment on fait pour sortir en confinement avec de la réalité virtuelle, avec des vidéos en 360, tout ça. C'était, enfin voilà, c'est comme d'habitude. J'ai l'impression d'avoir loupé moult choses super intéressantes et je me dis bon, c'est pour ça qu'il faut être deux à Ludovia. Voilà, tu m'as manqué. Il faut le dire. Tout le monde est passé. On me dit où est Jeff. Voilà. Je ne sais pas. Il est pas là. Je sais. Donc après, on a eu j'ai eu le plaisir de retrouver nos potes de Nipédu avec qui on a pu discuter. Voilà, parler un petit peu. Je me suis fait interviewer par eux pour leur podcast. Et puis passer un bon moment, c'est ça Ludovia, quoi. Un bon moment en apprenant des trucs et en étant motivé pour l'année qui vient.
Ouais, qui booste, c'est ça. Voilà. D'accord, exactement. Donc ouais, donc une année plutôt bonne alors en fait, hein, vu le contexte alors.
Vu le contexte, moi je leur tire mon chapeau. Franchement, je leur tire mon chapeau. Ils ont réussi à le tenir leur pari, alors que franchement, je n'y croyais pas trop.
Ok, super retour en tout cas. Tout ce que tu nous as parlé là, on retrouve sur le site de.
Alors vous avez sur Ludomag, ouais. Vous avez généralement, vous avez les articles, vous avez les biographies, vous avez la présentation des ateliers. Après, moi, il y a certaines personnes, je pense qu'on pourrait leur dire, et ça vous dirait de faire une petite entrevue là sur eTeachers, qu'on reparle deux minutes de ce que vous avez fait.
C'est vrai, tout à fait.
On pourrait faire notre Ludovia à nous, tu sais.
Ouais, tout à fait. Non, mais on mettra le lien de Ludomag en tout cas sur.
Tout à fait.
Sur les notes de l'émission. Ok, super. On enchaîne? Ouais, ça te va?
On enchaîne. Allez. On enchaîne.
T'as beaucoup parlé, tu veux que je parle? Allez.
Oh, écoute, vas-y.
Allez, moi, c'est un tout petit outil que j'ai découvert tout simplement par notre fidèle Tisman. Si vous connaissez pas encore son site, allez-y, tisman.fr. C'est un outil très très simple pour les PDF. Il existe moult des outils sur le PDF dès qu'on a un problème, on reçoit un PDF, on n'a pas l'original, on voudrait modifier des choses dessus, une image, du texte, etc. Ça peut devenir vite la galère. On trouve des petites choses en ligne qui font le job aussi, etc. On trouve des logiciels un peu plus lourds, payants, etc. En fait, il y en a un qui s'appelle simpdf.com, qui fait en fait l'essentiel, une simplicité déconcertante, gratuit, en ligne. On choisit le fichier, on l'envoie, on l'édite et on l'édite ce qu'on veut. Et c'est tout, on le récupère, c'est gratuit, il n'y a pas de. Des fois, on a un petit filet en filigrane, on a le nom du site, etc. Sur certains, lui, rien du tout. Franchement, je peux rien d'autre à en dire. Sim PDF, si vous avez un PDF que vous voulez éditer, eh ben, c'est le plus simple du monde, en tout cas, j'ai trouvé. Merci en tout cas à Tisman de partager toujours ses trouvailles et ses petits trésors comme ça. Sim PDF.
Ah, intéressant. Voilà. C'est vrai que le PDF, en fait, moi, je les modifie difficilement. Et en fait, le plus simple que j'ai trouvé à l'heure actuelle, c'est de les passer sur mon iPad, quoi. C'est pas...
D'accord. Ouais. T'en avais parlé, peut-être parlé, non ? Non ?
Oui, on a dû en parler, j'ai dû en parler rapidement. Ouais. Je prends la main ou tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, c'est tout. Non, c'est un petit outil très simple.
Voilà. Voilà. Alors, moi, pour l'outil suivant, c'est pas un outil... Alors, c'est un outil simple, mais complet. Et je suis un peu embêté de vous en parler là tout de suite. Je vais faire une petite présentation parce que j'espère bien que l'auteur de tout ça va venir nous voir et nous en parler lui-même parce qu'il a une longue histoire sur le net. Alors, je vais vous parler du site monécole.fr. Monécole.fr, on en a déjà parlé. On en avait parlé, par exemple, pour les parcours il y a fort longtemps. C'était notre Américain qui nous avait parlé en disant qu'il était assez épaté parce qu'il y avait de disponibles gratuitement sur ce site. Depuis, mon parcours a beaucoup évolué. Mon parcours, c'est il y a un autre service à côté qui s'appelle Rallye Lecture. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer à quoi ça sert? Et à côté, vous avez Matero. C'est une plateforme pour faire du calcul de façon assez ludique avec les enfants. Donc ça, ce sont des services qui sont proposés sur monécole.fr, et monécole.fr évolue et devient carrément une plateforme complète, à savoir que il va y avoir non seulement les services dont je vous ai parlé, mais vous avez également accès à un petit bureau, c'est-à-dire un espace réservé, on va dire un espace qui peut être réservé à l'enseignant, qui peut être partagé, qui peut être aussi avoir une version élève. Et dans cet espace de mon bureau, vous allez pouvoir y coller ce que Laurine Walter appelle des widgets. Alors les widgets, qu'est-ce que vous avez comme widget? Ben, ça va être des petits modules qui vont vous aider, qui vont vous rendre des services. Voilà, parfois, va vous donner un site pour un service. Là, ils sont tous un petit peu répertoriés. Alors, je vous en fais une présentation un petit peu rapide. Hein, vous avez, par exemple, un widget traitement de texte. Vous allez donner une petite rédaction. Et dans le côté élève, les élèves vont pouvoir taper la leur et vous allez pouvoir récupérer ça de façon automatique, rapide. Voilà, leur donner une correction, etc. On n'est pas loin du LMS, hein, vous savez, le Learning Management System, où on va, paf, je reçois un truc, je le corrige, je le renvoie, il le corrige, paf, paf, paf. Une espèce d'échange très pratique. Bon, ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi avoir une petite veille automatique sur des sites qui vous intéressent. Voilà, c'est ce qu'il appelle le widget bien informé. Donc imaginez, bah, vous arrivez là, vous n'avez pas envie de vous faire plusieurs sites pour savoir quelles sont les nouveautés, bah, là vous pouvez les avoir répertoriés sur un petit widget tout simple. J'ai oublié de vous parler rapidement de la charte graphique. La charte graphique, elle est très sympathique. C'est quelque chose que j'aime bien, qui fait un peu naïf, mais pas simplet. Voilà, c'est quelque chose qui est propre. Alors, il y en a des widgets, il y en a quelques-uns. Moi, j'en utilise pas énormément, mais je pense que ça peut être très intéressant, par exemple, pour des enseignants qui ont envie de se lancer dans le numérique, justement, avec le confinement, tout ça, ça les a incités. Ce genre de truc, vous avez des tas de petits services qui peuvent, avec un recentrage, voilà, un agrégateur, on pourrait dire, de petits services numériques. Vous avez le petit musée, par exemple. Ça peut être affiché du côté élève, et vos élèves y vont, ils ont une œuvre d'art qui est affichée avec un petit descriptif, ils peuvent se renseigner, etc. Vous pouvez afficher les devoirs, vous pouvez avoir des recherches. Là, la recherche, on va passer par Jeff, par...
Par Quant.
Quant Junior. Quant Junior. Presque. Pas mal, pas mal, hein, pas mal. Voilà. Vous avez un générateur de QR code. Les QR codes sont mes amis, donc un générateur de QR code, c'est très bien. Comme ça vous évite de partir ailleurs. Vous avez envie de vous détendre, vous pouvez avoir Parents Prof le mag. Voilà. Vous avez envie de discuter avec vos élèves. Eh bien, ça fait partie des nouveautés toutes fraîches qu'il y a sur le site. À savoir que vous pouvez avoir une discussion. Alors la discussion, ce qu'il appelle le cahier de liaison, soit c'est quelque chose que vous utilisez avec les parents, soit vous pouvez l'utiliser directement avec vos élèves. Ça peut être un espace de dialogue avec vos élèves. Ce côté-là m'intéresse pas mal. Parce que moi, j'ai sur Éducartable, j'ai l'espace de discussion avec les parents. Mais je me suis aperçu avec le confinement, justement, que mes élèves, parfois, ils avaient besoin d'un accès direct avec moi. Donc ça peut être pas mal pour garder un suivi. Là, c'est à part, je sais, je suis tranquille. Vous pouvez avoir l'actu de la classe. Ça peut vous faire un petit cahier de vie, un petit blog là-dedans aussi, tranquille. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Vous pouvez aussi partager des documents. C'est un widget en plus, documents partagés. Donc, vous voyez que c'est quelque chose comme une espèce de Lego numérique où vous allez avoir des briques à peu près pour tout ce qui peut vous intéresser. Et tout ça, c'est sur monécole.fr. Et ça, c'est développé par un enseignant. Donc, c'est pour ça que j'espère, Laurine, que tu viendras nous en parler directement pour nous dire ben, un peu l'histoire, parce que depuis les années et des années que je vois ce qu'il fait, je me dis qu'il a quand même pas mal de choses à nous confier et que ça peut être vraiment intéressant d'échanger avec lui.
Ouais, c'est libre, c'est riche, hein, comme j'étais en train de regarder dessus pendant que tu parlais là. Ouais.
Oui. Bah oui, c'est vrai, je trouve que là, il y a une charte graphique qui est propre, qui est nette. Mmh. Voilà, tu vois, pas vieillotte, pas techno. Voilà, c'est pas mal du tout.
D'accord, d'ailleurs, il y a un business model, d'ailleurs, oui, c'est ça, de l'abonnement, quelque chose, c'est ça.
Oui. Ouais. Alors, que je sache.
Bon, on va pas faire entrer dans les détails, c'est peut-être pas le moment, mais.
Non, mais. Je peux te dire, sur certains trucs, je peux te dire. Matero, par exemple, le service est payant. Rallye Lecture, le service est payant. C'est un service que je crois qui est facturé à l'année, pour une année et par élève. Mm-hmm. Ça reste je crois que c'est dans le style 2 euros par élève. Voilà. Okay. C'est ce genre de service où on paye séparément les services. Après, le petit bureau, pour l'instant, c'est un service qui est gratuit, de ce que je sais. Donc, okay. Pourquoi pas ? Franchement. Il y a aussi mon parcours. Mon parcours, c'est une option payante. Moi, je sais que je m'en suis servi pendant le confinement. Oh, voilà quoi, c'était d'une simplicité. En plus, il y a un partage des séquences qui sont réalisées. Alors, il y a des exercices sur pas mal de matières qui existent. Par exemple, l'anglais, il y avait des séquences dont je me suis servi. Donc voilà, c'est vraiment très très pratique.
Ok, très bien. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Du coup, je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple pour l'outil suivant. Et c'est dommage que notre américain ne soit pas là parce que je pense que ça l'aurait intéressé. Je ne sais pas si tu sais, en ce moment, Apple a lancé Scribble sur les iPads.
Ouais, rappelle-moi.
Alors, Scribble, c'est l'idée d'Apple de se dire, vous utilisez votre stylet, mais pas encore assez à notre goût. Vous pouvez aller l'utiliser pour écrire directement des mots, etc. Et nous, on le convertira en mots. Alors, d'accord. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'existe qu'en version anglaise. Américaine, pardon, donc il y a des petites astuces pour l'activer, mais bon, en français, vous savez, les accents, les cédilles, tout ça, il va pas beaucoup aimer. Alors je me suis intéressé, je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il y a une appli pour ça? Et c'est dans le mug de Jérôme Kenborg, mm-hmm, qu'il en parlait et dont il parlait de Nebo, une application qui fait exactement ça, sauf qu'elle le fait en français. Je crois que c'est une appli française d'ailleurs.
Que j'avais essayé, si tu veux savoir, quand elle était encore en bêta, tu vois. Donc,
Ah ben écoute, là, elle est plus en bêta. Mm. Et moi, j'étais un peu bluffé parce qu'elle fonctionne.
Elle marchait bien, ouais. Ouais.
Et à l'Apple Fanboy. Existe aussi sur Android. La seule contrainte de cette application, c'est d'avoir un device Android avec un stylet. Alors moi, j'ai encore mon Note 4 sur lequel je vais essayer, même si j'en ai pas l'utilité.
Quand j'avais essayé, quand j'avais essayé, j'étais sur Android. Hein. J'ai une Samsung Galaxy Tab A, pour pas la nommer, et il y a un petit stylet qui marche très bien.
Alors soit un stylet Wacom.
Ouais, ouais, et Nebo fonctionnait bien. Après, ça a sûrement évolué encore. Hein, donc.
Ben écoute, là il y avait une option pour faire des diagrammes directement à la main. Bon, ça, il y en a d'autres applis qui le font, mais lui, franchement, la transcription du texte manuscrit avec des gestes qui ont été adaptés pour séparer les mots, pour les couper, simplement pour effacer un mot, vous le gribouillez. Mmh. C'est très drôle. Voilà, ça fonctionne très bien. Après, je pense que c'est un petit outil, ça reste encore un gadget et que je passerai sur la truc d'app quand ils l'auront fait, mais franchement, très très bonne. Alors attention, c'est pas une appli gratuite, elle est payante. Alors vous pouvez l'essayer. Là, moi par exemple, j'ai la version gratuite, toutes les fonctionnalités sont là, sauf qu'il est très limité en export. Pardon, limité en export, vous pouvez l'exporter qu'en texte et vous avez un nombre limité de styles de cahier, de feuilles. L'appli est à 9 euros, je crois. Sur iPad, ouais. C'est pas énorme pour une appli.
10 euros sur Android.
Donc, voilà.
Je viens de vérifier. Vois,
Bon. Ouais. Faut en avoir l'utilité, je pense. Après, on est quand même dans.
J'ai eu ma période où j'écrivais énormément sur ma tablette.
Je t'ai perdu, Jeff.
Ah, tu m'entends ?
Là, je t'entends, oui.
J'ai eu ma période où j'écrivais énormément sur ma tablette, où je faisais vraiment beaucoup de prises de notes, puis ma tablette a un peu vieilli. un peu ralenti, j'ai un peu abandonné ça, mais j'ai eu une période où je prenais toutes mes notes dessus, j'en étais plutôt content. Ouais.
Bah, figure-toi que moi, c'est le. Maintenant, j'ai l'avant-dernier iPad, c'est le dans l'entrée de gamme, et le stylet fonctionne, et je suis un amoureux du stylet depuis longtemps. J'ai toujours une Android d'ailleurs, avec stylet. Franchement, ça m'a redonné envie de reprendre des notes là-dessus aussi.
Non, c'était très pratique en tout cas. Très bien.
Mais ce serait l'heure des trucs et astuces.
Ah, les trucs et astuces. Je vais peut-être parler moins. Allez.
Oui.
Alors, le truc et astuce que j'ai trouvé il n'y a pas plus tard que cet après-midi.
Si tu veux savoir. Oh, tu révèles les secrets de l'émission.
C'est-à-dire que bah, j'ai eu un besoin, il fallait trouver tout de suite la solution. J'ai fait des vidéos de différentes choses cet après-midi. Et comme un neuneu, bah, j'ai pas fait attention que dans quel sens j'avais filmé. J'avais filmé dans le mauvais sens. La vidéo était pas dans le bon sens, j'ai dit quelle galère, je les avais toutes uploadées, etc. Bon, ras-le-bol. J'avais pas envie de les refaire, en plus j'avais plus le matos pour les refaire. J'ai dit qu'est-ce que je vais faire, essayer de trouver un petit logiciel, télécharger un logiciel pour faire ça, ou encoder la vidéo pour la tourner, franchement non. Hein.
Mais non.
Je me suis dit, VLC doit bien le faire quand même, cet outil à tout faire.
Mais oui.
Voilà, je ne le savais pas, je l'ai appris cet après-midi. Donc en fait, VLC, qu'on ne présente plus, hein, je pense, comme lecteur de multimédia.
Le PLO.
Voilà, le PLO. Français, je crois, hein, toujours. Hein.
Oui, francophone au moins.
Ouais, francophone, c'était français, je ne sais plus si ça a été racheté ou pas racheté. Dans outils, en tout cas, dans le menu outils, vous avez effet et filtre. Que je connaissais même pas ces effets et filtres, et dans effets et filtres vous avez des effets vidéo, et dans les effets vidéo vous avez géométrie, et dans géométrie vous avez transformation. Ouais, transformation, alors transformation même. Alors attention, ça suffit pas, parce que j'ai pris un moment aussi, si vous faites que ça, bah, ça va lire dans le bon sens mais ça va pas enregistrer dans le bon sens. Pour enregistrer, il faudra bien aller dans médias et faire convertir enregistrer. Voilà, faut pas oublier cette petite. Je vous mettrai un petit tuto que j'ai trouvé pour vous expliquer ça. Mais en tout cas, VLC le fait très bien. Donc dans outils effets vidéo, et vous faites convertir enregistré. Voilà, je connaissais pas cette petite astuce. Voilà.
Date de. Alors, moi, je vais te dire, je la connaissais pour avoir dû retoucher une vidéo et pour avoir fouillé à une époque. Et je cherche encore un moyen magique de retoucher du cisaillement sur une vieille vidéo, c'est pas évident.
D'accord. Donc voilà, petite astuce très simple, mais qui a bien marché pour moi en tout cas.
Voilà. Mais écoute, tu as parlé de tuto, moi je suis tombé vraiment innocemment sur un tutoriel qui, si vous avez envie de vous mettre un peu au tableur comme Calque, il est sur Calque, hein, le tutoriel en question, ben, ça vous apprend en prenant Calque à faire un joli petit outil de suivi des élèves, et en plus, à la fin, dans une deuxième partie, vous pourrez apprendre à renvoyer ces résultats vers les élèves en faisant des fichiers individuels de façon automatique. Ah, c'est bien expliqué, bon, ça dure 15 minutes, j'ai bien aimé.
Fait par un célèbre youtubeur, je crois, hein, c'est ça?
Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Voilà, encore un youtubeur qui flambe la YouTube monnaie, comme on dit. Voilà, donc en fait, si vous voulez, c'est le résumé de l'atelier que j'ai présenté à Ludovia, avec ce que les collègues m'avaient demandé, surtout. Donc j'ai tout résumé, j'ai retourné mes vidéos, j'ai refait tout ça. Donc au lieu de, je leur avais dit sur place, oui, dans une semaine, je le mettrai en ligne. Donc je viens de le faire hier. Donc c'est à peu près, voilà, c'est une semaine e-teachers, on va dire. Voilà, donc ce petit, j'espère que c'est clair, vous verrez, c'est pas compliqué, et ça peut vraiment vous servir si vous avez envie, vous avez un parcours, vous n'avez pas envie de vous casser la tête et vous avez besoin de pouvoir les repérer. Avec Calque, il vous fera très bien, sans problème.
Voilà, on mettra ça dans les notes de l'émission.
Tout à fait.
Voilà. Bah très bien, depuis.
Là, c'est à toi.
Allez, ça marche. Donc, innovation, expérimentation. Moi, j'ai mis un petit article que j'ai lu, un article fait par l'Institut français de l'éducation, l'IFE, hein, qui sont à Lyon, hein, l'Institut français de l'éducation, qui a fait une petite enquête sur l'effet du confinement sur l'activité des enseignants et des professionnels de l'enseignement.
Article intéressant puisque surtout ils ont récolté 4286 réponses. Alors on peut commencer à se dire que ça peut être, voilà, c'est un panel assez important, donc qui peut être, qui est un panel qui est composé en tout cas d'enseignants de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. On a du personnel de direction, on a des corps d'inspection, on a des formateurs, on a des CPE et on a des personnels chargés de mission de coordination. Donc on a un peu un beau panel en tout cas du monde de l'éducation en France.
Assez large en effet.
Voilà. L'idée en tout cas c'était de comprendre les effets à court terme mais aussi à moyen terme de l'enseignement à distance qui a été mis en tout cas pendant ce confinement hein, sur les activités de l'enseignement et l'appui aux enseignants puisqu'il y avait aussi l'aspect formation. Donc qu'est-ce qu'il en ressort de cette enquête? Donc une large majorité en tout cas d'acteurs et du monde de l'éducation a vécu le confinement dans des conditions matérielles acceptables ou confortables. Les acteurs en tout cas ont dit qu'ils ressortent que presque 70% des répondants qualifient que leurs conditions matérielles pendant ce confinement étaient plutôt confortables, qu'ils avaient un accès en tout cas au matériel, à la connexion, des possibilités de s'isoler aussi pour pouvoir travailler. Donc c'est plutôt intéressant. Un peu plus d'un quart d'entre eux les trouvent acceptables. On a quand même 3,5% qui indiquent avoir été dans des conditions très précaires. Donc c'est quand même c'est un petit chiffre, mais c'est pas négligeable. Hein.
Non, surtout dans notre profession.
Ouais. Voilà. Si on va retrouver, il y avait une partie qui était sur le vécu de ce confinement. Il en ressort en tout cas qu'il y a eu une adaptation progressive des enseignants, en tout cas du primaire et du secondaire, hein, puisque moins de 40% des enseignants du primaire et du secondaire se sont sentis à l'aise dans leur activité professionnelle au début du confinement. Moins de 40%. Hein. Je pense qu'on l'a ressenti aussi. Hein. Et ça, voilà. On leur ressenti en tout cas s'améliore en fin de confinement puisqu'on ça gagne 20 points hein, en fin de confinement. On sent que on peut en tout cas penser hein, qu'on a développé en tout cas des pas mal de stratégies d'adaptation, ce qui en sort, qu'on a développé des compétences sur des outils, sur des pratiques hein, pour mettre en œuvre cette combinaison pédagogique. Hein, forcément, hein, c'est tellement c'était du jour au lendemain qu'il a fallu. C'était un peu compliqué au départ. Si on parle CPE, plus donc le côté biscolaire, en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que les personnels associés à l'enseignement présentent 40% de répondants se sentent à l'aise en début de confinement, et la progression est beaucoup moindre, et de plus 10%, ça veut dire que ils étaient déjà plutôt à l'aise, en tout cas, en ce début de confinement. La moitié d'entre eux restent en tout cas mal à l'aise, peut-être face aux difficultés d'organisation du retour en établissement scolaire, qui était assez compliqué. Les formateurs, eux, sont plus à l'aise en tout cas dès le début du confinement, hein, c'est ce qu'il en ressort en tout cas. Peut-être en tout cas ce qui s'en sort, c'est peut-être parce que par rapport à des compétences qui étaient plus développées pour le travail à distance, en tout cas et avec le numérique. C'est peut-être une réponse à que le formateur était plus à l'aise dès le départ.
Après. Il y a aussi une dimension à prendre en compte, c'est l'âge de ceux à qui tu t'adresses. C'est-à-dire que, par exemple, un enseignant de maternelle, pour s'adapter, il a face à lui des enfants et des parents qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le numérique. Donc au début, il va être très paumé, puis il va chercher, il va trouver des réponses, il va les tester, il garde celles qui fonctionnent, etc. Après, l'enseignant du supérieur, il a quand même face à lui des élèves, par exemple, je prendrai un enseignant du lycée, paf, ils ont tous leur smartphone, donc il va se focaliser déjà sur l'idée de « ils ont un smartphone, je reste là-dessus ».
Ouais, alors, on parle pas là, tu parles du lycée ou du supérieur, hein, c'est pas pareil. Hein, on va en venir, oui. Hein, du supérieur. Tu vois, c'est juste là. Collège-lycée, il n'y a pas eu de plus à l'aise, hein, je pense pas, hein, au point de vue collège-lycée. Hein. T'inquiète pas. Hein.
Oh non, je m'inquiète pas du tout.
Voilà. Un recul, donc si au point de vue des enseignants du supérieur, on y arrive. Un recul du bien-être professionnel chez les enseignants du supérieur. Pourquoi ? Ces répondants sont les plus à l'aise dans leur activité professionnelle en début de confinement. 60% étaient très à l'aise en tout cas activité professionnelle. Donc c'est peut-être ce que tu as dit tout à l'heure, hein, plus à l'aise avec souvent des adultes en phase 2 et des connexions, etc. Mais pourtant. Et puis surtout qu'ils utilisaient déjà hein, des plateformes de cours, de partage de documents, de travail à distance, c'était déjà enfin il me semble qu'au point de vue des étudiants, c'est déjà ils sont déjà plus autonomes là-dessus.
Ça devrait.
Mais ce qu'il en ressort, c'est que leur assurance diminue cependant de 8 points en fin de confinement. Donc pourquoi? Parce que il y avait toutes les problématiques d'évaluation. C'est ce qui sort. Hein. Pour forcément, on a eu énormément d'évaluations qui n'ont pas pu se faire, hein. D'examens, etc.
Après, est-ce que je rajoute que les instructions un peu flottantes de notre ministère n'aidaient pas?
Ok. Au niveau des directions et inspecteurs, il y a eu un malaise professionnel persistant pour presque la moitié des personnels de direction et d'inspecteurs. Le nombre en tout cas de répondants est très mal à l'aise, augmente même plus de 4 points jusqu'à la fin du confinement. Je plus vois, si tu veux savoir. Hein. Le corps d'inspection a été très très absent, je trouve, de ce confinement. Il ne trouvait peut-être pas sa place. Et au point de vue personnel direction, il y a eu vraiment des grandes disparités là-dessus. En tout cas, c'est mon ressenti perso.
Oui, oui. Après, tu sais, ma vision est un peu biaisée parce que le personnel de direction, ça reste un collègue chez nous. Et par exemple, je sais que ça a été l'année où j'ai été content de ne pas être directeur. Et en cette année aussi, cette année c'est encore pire. Mais voilà, j'étais content de pas être directeur parce que il faut voir que les directives arrivaient, que par exemple dans ma circo, tout ce qui est conseiller, pédago, tout ce qui est mon érune, etc. Ils ont turbiné, et que forcément, l'inspectrice, c'était compliqué de l'avoir incarné encore l'administration. Donc, c'est pour ça que je te dis un regard un peu biaisé. C'est plus réduit, forcément.
Bilan, en tout cas, le bilan, ce qu'il en ressort, c'est que c'était une expérience positive, en tout cas. Qui permet de regarder autrement son activité professionnelle habituelle, puisque plus de 60% des répondants ont considéré que cette situation d'activité à distance était une expérience professionnelle plutôt ou très positive. Les formateurs sont le secteur où sont le plus utilitif à ce sujet, puis les personnels de direction et les inspecteurs, les enseignants du primaire et secondaire et les personnels chargés de mission, de coordination et d'appui à l'enseignement. Les moins enthousiastes sont été les enseignants du supérieur, ce qui est assez surprenant, hein. Avec seulement 53% d'avis positifs sur cette expérience. D'ailleurs, presque 60% des répondants, en tout cas, que cette expérience a modifié leur façon de voir leur activité professionnelle habituelle. Ça, c'est bien, hein, faudrait surfer un petit peu là-dessus, moi, c'est ce que je me dis, hein, puisque ça a bougé, en tout cas, les habitudes de beaucoup, beaucoup de monde.
Oui, et puis ça a obligé, ça a remis, moi par exemple, je vais te dire dans le secteur du primaire, on avait tendance à un petit peu oublier les érunes, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées au niveau des inspections d'aider les inspecteurs au niveau du numérique, on les avait un peu oubliées. Là, du coup, ils sont revenus sur les feux de la rampe parce qu'on a eu super besoin de leurs compétences. Voilà, il y a eu ça, il y a eu toute cette vague de collègues qui ont découvert des outils qui pouvaient sembler totalement anodins pour nous qui trempons dedans depuis des années, mais qui ont découvert des trucs et qui se sont dit « Ah mais oui, mais en définitive, c'est vrai qu'ils nous en parlaient, on n'y avait pas essayé, maintenant que j'ai essayé, c'est pas mal. » C'est pas mal.
Tout à fait. Au point de vue, il y avait des questions sur la charge de travail. Donc là, pas de surprise, 71% des enseignants, 69% du personnel de direction et inspecteur, 58% des formateurs, 44% des coordinateurs déclarent forcément une charge de travail plus importante que d'habitude. Forcément, ça, il n'y a rien de. Voilà, il n'y a aucune surprise là-dessus. Au point de vue activité qui s'est passée pendant ce confinement, 59% des enseignants ont plus fréquemment entretenu des relations avec les parents d'élèves. Et 64% des personnels de direction et d'inspecteurs ont plus souvent contribué au lien avec les familles.
Je te fais un petit point. Moi, par exemple, je suis rentré dans les maisons de mes élèves, chose que je ne pensais jamais faire.
Tout à fait.
C'était très amusant à certains égards, parce que les gens oublient parfois qu'il y a une caméra qui est en train de filmer leur bambin et passe derrière.
On a communiqué avec des parents qu'on ignorait l'existence, certains. Donc, c'est
alors, voilà. Moi, j'ai surtout enseigné à des parents, en fait. Voilà, c'est la réponse, elle est là. C'est oui, alors oui, bien sûr. Alors oui, non, mais votre enfant a raison. Oui, non, mais c'est bien ça qu'il fallait faire. Oui, vous voyez le bouton? Oui, alors vous appuyez dessus. Vous ne m'entendez plus? Alors attendez. et tu, là tu tapes dans le chat, reloguez-vous, ça va repartir comme avant. Voilà. Là, j'ai fait de la formation numérique auprès des parents. Donc oui, plaisanterie mise à part, c'est sûr que tu étais forcément, et d'autant plus dans le primaire, tu laisses pas un enfant comme ça seul. Il va pas, parfois il sait mieux, mais il va pas faire tout seul devant l'ordinateur. Donc forcément, tu avais les parents au moins au début qui venaient prendre des nouvelles, qui voulaient savoir un petit peu comment ça se passait, même dans une logique de communication qu'on a essayé de mettre en place. Mais voilà, oui, forcément, il y a eu une communication supérieure à celle de d'habitude. Et même à la rigueur, je vais même te dire, certains parents ont découvert réellement comment on fonctionnait, on travaillait, ce que c'était les méthodes, comment on évaluait, etc. J'ai un père qui me dit, ah, mais je vous trouve un peu rude sur la notation. Et là, je lui explique la notation. Il fait, ah, mais j'avais pas du tout compris. Voilà, j'ai fait, en fait, la notation, entre guillemets, c'est pas une faute, je baisse la note. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà. Oui, il y a eu un vrai changement de communication à ce moment-là.
Au niveau des personnels direction, inspecteurs, en tout cas, qui ont eu aussi consacré plus de temps à l'accompagnement des personnels, hein, ça je peux, voilà, au point de vue pareil sur les formateurs, etc. La même chose, une charge de travail, je pourrais en parler, hein, puisque la charge de travail nous a vraiment été énorme. Au point de vue activité, qui a un peu moins marché, c'est forcément sur l'évaluation, ainsi que les formations, la collaboration des équipes. La moitié des enseignants, au moins, ont pas évalué les élèves de façon formative, et 75% de façon sommative. Alors, de façon sommative, en tout cas, nous, dans notre académie, on avait des... On le déconseillait fortement, mais je suis assez surpris sur l'évaluation formative. Hein. On a plein d'outils qui pouvaient le faire.
Moi, si tu veux, ce que j'aurais aimé savoir, c'est la proportion de ceux qui utilisaient les évaluations formatives dès le départ. Je suis pas convaincu que ce soit l'évaluation sommative. On la connaît, elle est là, elle est sur 20, etc. Chez nous en primaire, on a réussi à évoluer là-dessus, heureusement. Hein, mais je serais curieux de savoir la formative. Et tu dis, oui, il y a des outils, etc., mais il faut les prendre en main. Et si tu n'en fais pas d'évaluation formative dans
déjà
ta pratique
en classe,
habituelle,
hein. Ouais. Moi, j'avais pas vu ça comme ça, c'est vrai. Ouais, tout à fait.
Bon, après, je suis peut-être pessimiste. Hein. Mmh. J'ai peut-être une vision biaisée. Et si ça se trouve, ça a évolué là aussi. Mais...
Mmh. Ok. Collaborer au sein des équipes, c'est en tout cas l'activité qui a été le plus citée par les enseignants et les formateurs comme la moins fréquente durant le confinement, 38% et 32%. Pas de collaboration entre les équipes. Ça aussi c'est du vécu. En tout cas, c'est moi ce que j'ai beaucoup entendu en tant que formateur pendant ce confinement. Hein. Il y avait des équipes qui ne se sont pas parlé pendant 2 mois, quoi.
Chaque prof discutait avec les élèves, et en fait l'espace de collaboration des profs, ça s'appelait les élèves. C'est-à-dire que chaque prof envoyait un truc aux élèves, et c'était eux qui étaient entre guillemets l'espace de collaboration. Enfin, c'est comme ça ce que j'ai vu du côté de mon épouse. Donc
il y a eu beaucoup de choses comme ça, oui, il y a eu beaucoup de choses où chacun était à lui-même, voilà, chacun faisait tout dans son coin, il n'y avait aucune discussion.
Après,
Après, là aussi, il aurait fallu comparer ça à une situation dite normale, voire réellement la collaboration qui est effective. Si tu veux, Jeff, par exemple, je prends mon école, oui. On est 3. Alors forcément, je collaborais avec la directrice, mais je n'allais pas collaborer plus que ça avec l'enseignante des CP et des CE1, si ce n'est pas pour lui que filer un coup de main ou un tuyau. Donc la collaboration. Après, il y a aussi un truc tout bête, c'est que déjà il a fallu apprendre à enseigner à distance à des élèves. Il aurait fallu aussi apprendre à collaborer avec des collègues.
À distance, tout
collaborer,
à fait, oui.
Et ça demande des espaces, ça demande des habitudes, ça demande tout un truc.
Quand je parle de secondaire, on a quand même dans chaque collège, chaque lycée, on appelle ça des référents numériques dans notre académie, qui sont là quand même pour ça, et je suis surpris qu'ils n'aient pas pris les choses en main ou proposé des choses, etc. Plus que ça, quoi.
Oui, mais ils étaient peut-être pris par l'urgence qui était de ne pas lâcher les élèves. Mmh. Et il y a des urgences, et il y a des urgences qui sont moins urgentes. Donc peut-être qu'ils ont estimé, pour la plupart, que la collaboration c'était en second, et que voilà, on lâche pas les élèves, mais par contre, tant pis, on va pas pouvoir collaborer plus que ça. Ouais, ça aussi, ça peut être très variable d'un espace à un autre.
Non, mais tout à fait. Je prends pas l'exemple de mon établissement où on a plutôt bien géré. Hein, je te parle, voilà, c'est où nous, on avait toutes les semaines une réunion hein, en visio, hein, tu vois, toutes les semaines, hein, tous les lundis, on a une réunion en visio. Où... Mais bon. Ensuite, au point de vue appui-obstacle, on a vu que 3/4 des enseignants ont jugé plus difficile que d'habitude le suivi travaux personnels des élèves. On s'en doute, hein. Ça a été la grosse difficulté,
bah oui.
Voilà. La mise en œuvre des activités et l'adaptation des enseignements à la diversité des élèves. Ouais, voilà. Ça,
Je prends ta... Tu en as un exemple vivant. Quoi, ouais. La techno à distance, c'est pas ce qu'il y a de plus facile.
Ouais.
Il y avait Romain Brodel Chapuzot qui nous parlait la physique chimie à distance, c'est pas forcément le plus évident. Donc il faisait des vidéos, il faisait des trucs, voilà. Etc. Mais du coup, tu perds le côté manip.
Oui, non, c'est sûr. De leur côté, plus des deux tiers, en tout cas, des personnels de direction, inspecteurs ont jugé le plus ardu de veiller au bon déroulement de l'organisation du travail des élèves. Ben, ok, 65% de mettre en œuvre des activités et impulser les actions pédagogiques et éducatives. Hein. Et 64% disent que c'était difficile de veiller à la bonne marche de l'école, tout simplement. Pour finir, les points forts les plus cités, en tout cas par les répondants, c'est par l'ensemble des répondants pour parvenir à faire son travail pendant le confinement, sont les compétences d'organisation et de communication et de médiation, qui sont été vraiment les points forts. Le second appui majeur correspond à la maîtrise des outils informatiques, forcément, pour deux tiers des enseignants, des formateurs et des coordinateurs. En tout cas, les échanges avec les pairs ont constitué une aide pour les personnels de direction et inspecteurs, et pour le coordinateur. Ce qui a été le moins déclaré, c'est tout ce qui est la collaboration, on en revient, avec les collègues. Il était souvent déclaré comme un... Voilà, et nettement moins par les enseignants, en tout cas. Voilà, alors dans cet article, dans cette étude, on a un petit peu le taux, on a... il y avait eu 3030 enseignants qui, voilà, entre primaire, secondaire, on avait 540 direction inspection, formation 540 aussi, voilà, donc on avait une belle diversité en tout cas de répondants. J'ai trouvé en tout cas intéressante cette enquête, c'est la première en tout cas que je vois passer comme ça après le confinement. Si vous voulez la retrouver, alors elle n'est pas évidente de trouver, mais vous la trouvez sur le site de l'IFE, l'Institut Français de l'Éducation, et vous la retrouverez dans les notes de l'émission. Voilà.
Eh bien, merci Jeff.
Allez, ce qu'on fait en ce moment, Seb, tu fais quoi en ce moment ?
Oh ben moi, en ce moment, je fais des évaluations en anglais. Donc, je me mets au tableau, je dis une phrase en anglais, les élèves doivent l'écrire sans faute, sinon, ben, ils la recopient. Voilà, c'est bien. Plus sérieusement, non, je fais des évaluations en anglais, oui, et pour ça, tu sais ce que j'utilise pour faire des évaluations en anglais ? J'utilise un outil dont on n'a pas assez parlé. Franchement, on devrait en parler plus souvent. J'utilise Book Creator.
Ah, tiens.
Ah, oui, écoute. En attendant qu'on lui consacre une brève, parce qu'il mérite très bien. Plus sérieusement, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un modèle de livre avec des phrases et expressions en anglais, et les élèves devaient me répondre en s'enregistrant, etc. Quel est l'intérêt ? Ben, l'intérêt, c'est de garder une trace d'un truc qui, d'habitude, n'en fait pas, c'est-à-dire c'est de l'oral. Donc j'ai des évaluations, donc je fais ça sur mon iPad, et ensuite j'ai quelques iPads dans la classe, et les élèves passent dessus, je leur envoie par AirDrop, ils le remplissent, etc., ils s'enregistrent, ils me le renvoient par AirDrop. AirDrop est un truc magique qui arrivera bientôt sur Android apparemment, dans la version Android bien sûr, et ça fonctionne très bien. Et en même temps, je suis en train d'essayer, mais c'est un peu plus laborieux, d'utiliser la version en ligne de Book Creator, qui elle est sur abonnement annuel. C'est disons que ça demande une connexion d'un peu meilleur niveau que ce que j'ai, et donc ils font leur cahier d'art et de poèmes en ligne, et je vais essayer de voir si ça fonctionne, si on arrive à tenir toute l'année comme ça. Donc voilà, du Book Creator comme chaque année. Et toi Jeff, qu'est-ce que tu fais?
Tout à l'heure t'en as parlé, je suis en plein dans Pix justement, dans le certification des compétences numériques, hein, on l'avait déjà parlé plusieurs fois, le cadre de référence des compétences numériques, le CRCN, et Pix est l'outil pour évaluer ça. Pourquoi on est en plein dedans? Mais parce qu'il y a une urgence cette année, c'est la certification au niveau 3e et terminale. Vous savez un petit peu que bon, j'ai deux casquettes, j'ai une casquette où je suis enseignant en collège, une casquette où je suis chargé de projet à la direction numérique de l'Académie de Lyon, Et donc j'ai les deux côtés, où j'ai les deux côtés où il faut former rapidement les enseignants, les administrateurs pour faire pour PIX, pour mettre en place rapidement la certification, parce que certification, on claque pas des doigts et les élèves vont le faire. Il faut qu'ils aient un certain niveau pour vous pouvoir être certifiable.
Ce qui est logique.
Voilà. Et au lycée, ça arrive très vite. Je crois que c'est à partir de mars qu'ils doivent être certifiables. Donc, il faut former les enseignants, etc. Les enseignants sont...
Je ne cache pas que beaucoup sont réfractaires à ça. Spécialement au lycée, puisqu'ils ont énormément de choses à mettre en place avec, avec la réforme des lycées, etc. J'ai peur que ce soit l'affaire de quelques-uns. En tout cas, au lycée, la SNT le prenne bien en main. Vous savez, sciences numériques et technologies en seconde. Et quelques-uns, en tout cas, je sais qu'il va falloir au plus vite en terminale en troisième cette année.
Mais il faudrait quand même que dans la durée, on commence en cinquième, en quatrième, en seconde, en première. Que ça se commence à mettre en place et que ce soit vraiment l'affaire de tous. Donc voilà, c'est la grosse difficulté du moment, c'est faire passer tout ça. On fait des formations en ligne en plus, puisqu'on n'a plus le droit, pour l'instant, on n'a pas le droit de faire des formations présentielles. Donc ça fait beaucoup de choses. Voilà le gros morceau en ce moment. On passe des journées à faire des webinaires d'un côté. En établissement, ben je commence à faire travailler ça dans ma discipline, ce qui est pas forcément dans mes programmes. Tout n'est pas dans mes programmes. Donc j'axe les compétences numériques de mes programmes. Le reste, ben, il faut que les collègues le prennent en main. Et c'est toute la difficulté en tout cas de PIX, même si l'outil, j'en suis vraiment satisfait, je trouve que c'est plutôt très bien fait.
Ah certes, alors moi pour le néophyte que je suis, qui me suis penché dessus, j'étais alors tu m'avais dit, tu m'avais prévenu que c'était bien fait, que les ressources, etc. Non, j'étais plutôt étonné, franchement c'est vraiment un bel outil. C'est étonnant quand on a connu le B2I ou même le C2I, quand on arrive là-dessus, c'est tellement plus la même chose, c'est tellement mieux pensé. L'idée qui est derrière est totalement différente. C'est vraiment quelque chose du quotidien avec des choses que l'on va croiser, que l'on va voir. Voilà.
Allez, on a terminé un petit peu. On va parler d'autre chose un petit peu. Hein, d'un peu plus léger, d'un peu plus.
Léger
ça. Non.
Ah non, moi, c'est pas léger.
Parce que j'ai c'est pas léger.
Franchement, moi, j'attends une chose. Là, en ce moment, j'attends une chose. Un film,
oui,
où
moi aussi, hein.
J'attends une petite litanie qui se dira « Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit.
Ouais, »
La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. Ce film, c'est Dune de Villeneuve. J'attends beaucoup parce que j'aime énormément les bouquins, mm-hmm. Toute la série. Moi, j'aime beaucoup toute la série. Mais il n'est pas tout prêt. Les images sont assez bluffantes. Les images de la bande-annonce sont assez bluffantes. Donc, en attendant, je me suis dit, mais je n'ai pas exploré énormément le thème de la science-fiction. Donc, Dune, c'est vraiment génial. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Alors, j'ai été voir ma chaîne YouTube habituelle sur la science-fiction, qui est Nexus 6, que je vous conseille. Et j'ai regardé ce qu'ils avaient en chronique bouquin. Ils n'en ont pas 50 000. Mais par contre, ils parlaient de Peter Hamilton. Et Peter Hamilton, il a fait des sagas monstrueuses. Et je suis en train de lire ça plus longue. Hein, je suis en train de lire L'Aube de la Nuit avec l'humanité dans le futur qui s'est divisée en deux branches, avec d'un côté les adamistes, de l'autre les édénistes. Certains ont développé des empathies, d'autres des tout le monde a à peu près des modifications génétiques. On est parti dans l'univers, ça colonise, etc. C'est monstrueux. Je suis à peine au premier volume, je suis déjà un peu paumé. Mais voilà, c'est du très bon, c'est du très bon. Après, c'est un succès. Je suis en retard là-dessus. J'aurais dû m'y mettre il y a des années. Mais franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc voilà ce que je fais en ce moment. Je me suis remis au bouquin de la SF. Je pourrais vous parler manga aussi, mais ça sera une autre émission.
Ok, très bien. En tout cas, oui, moi aussi j'attends Dune avec. J'ai vu le teaser ou le trailer, je sais plus. En tout cas, qui est vraiment attendu aussi. Je vais rester sur la science-fiction, puisque c'est une série qui s'appelle Westworld. J'ai dû déjà en parler. Westworld, c'était en tout cas le synopsis de départ. C'était un parc d'attractions où tout était permis, où à l'intérieur on avait des genres de humanoïdes, on va dire. Hein. Voilà, c'était la saison 1. La saison 2 était un peu dans le même esprit et était même, j'avais beaucoup moins aimé la saison 2.
Ah ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé la saison 2.
C'est vrai.
Ah oui.
Beaucoup moins accroché la saison 2. J'ai trouvé que c'était un peu une rediff de la saison 1, rien de plus. Enfin, c'est mon avis. Et la saison 3, je sais pas si tu as commencé, j'adore. J'ai adoré, parce que je l'ai fini. La saison 3 est complètement différente, ce n'est plus du tout dans cet esprit-là de parc d'attractions, etc. On sort complètement dans un monde futuriste, on ne sait pas trop à quelle époque ça se passe, etc. Toujours aussi sombre, toujours aussi intrigante, la Dolores qui veut prendre en tout cas sa revanche en tout cas sur l'homme, etc. Voilà, j'en dis pas plus en tout cas. Moi j'ai adoré cette saison 3 de Westworld qui m'a. J'avais eu un peu de mal à finir la saison 2. Hein, je t'avoue, je m'étais forcé un peu à finir la saison 2. Donc je sais pas si tu as vu la saison 3 en tout cas.
Écoute, non, parce que j'ai eu un peu peur de faire ce que j'appelle une Dexter. Dexter est une série, je pense que vous connaissez tous, avec un serial killer qui en est le héros. Et moi, je me suis arrêté à la fin de la saison 4. À la fin de la saison 4, il y a un truc qui se passe. Et je me suis dit, bon, ben là, pour moi, cette série est finie. Elle a duré jusqu'à la saison 8. Mm-hmm. Et je l'ai entreaperçu parce que parmi mes amis, parce que ma femme a voulu absolument continuer la série. Et la série est en déchéance lente mais inéluctable jusqu'à la saison 8 pour moi. Donc je me suis dit, non, Westworld, pour moi, la saison 2, ben, ça peut se terminer. Et donc, maintenant, si tu me dis que ça change et on sort du parc d'attraction, pourquoi pas?
Pourquoi pas. Ouais, t'avais peur que ce soit encore une rediff de la saison, c'est ça?
Ben, si tu veux, j'avais peur qu'ils nous fassent, je sais pas moi. Alors, vous avez connu le parc d'attractions western, mais est-ce que vous savez qu'il y avait un parc d'attractions avec des ninjas et des ninjas chinois en plus? Ah, ben ça n'existe pas, mais on s'en fiche, on l'a fait quand même. Voilà, j'avais un peu peur de ça.
Rien, ben moi j'ai trouvé que entre la saison 2 et la saison 1, c'était un peu ça, moi. Et la saison 3, complètement, mais complètement, on dirait vraiment totalement une nouvelle histoire. Moi en tout cas, j'ai bien accroché, voilà.
Non mais écoute, pourquoi pas. Bon après, il faut que je trouve du temps, mais sinon oui.
C'est ça, on a tellement. Voilà, en tout cas, en ce moment, là, je me refais beaucoup de séries de nouvelles saisons. En tout cas, j'ai pas trop fait de nouvelles séries, mais je suis beaucoup dans les nouvelles saisons. Voilà, on arrive au bout de ce numéro 102. Comme d'habitude, vous pouvez en tout cas nous retrouver sur tous les applis de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, voilà, il y en a énormément. Vous nous retrouvez sur Spotify, vous nous retrouvez sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, iTeachers FR. Voilà, on a notre petit Tipeee, si vous voulez toujours nous aider, en tout cas financièrement, ça nous aide bien en tout cas. Et puis sur Twitch maintenant, vous avez vu, sur twitch.tv/eTeachers. Dites-nous en tout cas ce que vous avez trouvé. Il y a un chat, alors le chat, on a remarqué qu'il fallait être inscrit chez Twitch pour pouvoir y répondre. On a, pour ça qu'on n'a pas eu grand monde, on a eu qu'une seule personne qui nous a dit bonsoir dans le chat. On la remercie en tout cas à BrezHFR22. Je suis très content qu'il y ait quelqu'un qui s'est abonné à Twitch. Mais en tout cas, ça a l'air de beaucoup mieux marcher que ce qu'on faisait avant. Non, je sais pas ce que t'en penses, Seb, en tout cas.
Alors, du côté technique, il n'y a pas photo. Voilà. Du côté technique, la connexion, la rapidité, les outils à disposition, c'est sûr que c'est un autre monde.
Voilà. Donc, on verra si on continue en tout cas là-dessus. Vous nous direz, faites-nous des retours en tout cas là-dessus. Mais en tout cas, vous nous retrouvez toujours en audio.
Toujours en audio. Et sinon, on te retrouve où, toi?
Alors, perso, on me retrouve toujours sur le mieux, c'est Twitter, hein, Jeff8342. C'est le plus simple, en tout cas.
Et toi, voilà, mais moi, ce sera sur Twitter aussi, avec @tuteur, STUTEUR.
Bonsoir à tous, et à peut-être dans 15 jours, sûrement. Voilà. Ah, c'est peut-être les bonnes vacances dans 15 jours. C'est vrai.
Oh là là. Ah ouais. On verra bien.
On verra.
Bonsoir.
Ciao.